טוב, בעזרת השם, merci de votre accueil. Aujourd'hui, avec la permission des Baalei Habayit, nous allons développer un sujet qui concerne quelques domaines en même temps. D'abord, l'entrée dans le mois de Tammuz, vendredi soir qui vient, deux jours de Rosh Chodesh, samedi et dimanche. Et nous allons voir comment le cours, en fait, s'inscrit dans cette notion de temps qui est très très spéciale. Je veux parler de ce mois de Tammuz et du mois qui viendra après Av. Il y a un autre mois qui a la même tendance, qui cache certaines choses justement parce que la lumière est trop forte. C'est le mois de Tevet. Et les Chachamim nous disent que dans la Torah, lorsqu'il est écrit que Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu, l'a caché pendant trois mois, en fait, elle n'a pas caché Moshe trois mois de sa grossesse, elle a caché Moshe trois mois qui sont Tammuz, Av et Tevet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la lumière de Moshe Rabbeinu, étant donné que c'est le Mashiach, il faut cacher la lumière messianique pour ne pas que les forces négatives viennent et prennent la force de ce côté messianique. Et c'est pour ça que nous sommes dans un monde paradoxal où, en même temps, on avance vers la Géoula et en même temps, on a l'impression que la Géoula se cache. Et pas parce que nous allons vers le noir, bien au contraire. Étant donné que nous allons vers la grande lumière, nous rentrons en même temps dans des étoffes qui empêchent les forces négatives extérieures et superficielles de têter, de prendre, d'utiliser la force messianique que nous sommes en train de grandir avec. Et donc, il peut paraître complètement insensé que nous allions vers la Géoula et qu'on voit en réalité du noir à l'extérieur, des difficultés, des sentiments d'angoisse, des sentiments de peur, des sentiments de dépression au fur et à mesure que nous avançons vers la lumière. Donc ce phénomène, on va essayer un tout petit peu de le comprendre. Et le mois dans lequel donc, nous allons entrer, c'est le mois de Tammuz, et bien par rapport au mois de Nissan, qui est le premier de l'année, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, c'est le quatrième mois. Or, le quatrième mois représente en fait un degré qu'on appelle Bechina Dalet. La Bechina Dalet, c'est-à-dire le quatrième degré, c'est la Malchut, la royauté. Puisque nous avons trois degrés qui correspondent, quatre degrés qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu, le tétragramme, la Chokma, la sagesse, qui correspond dans le corps humain au cerveau droit, la Bina, qui correspond dans le corps humain au cerveau gauche, la Tiferet, qui correspond à toute la face qui est au niveau du torse et du cœur, l'équilibre, et la quatrième, c'est la Malchut, c'est-à-dire la base vers laquelle tout converge et tout se révèle en elle et à travers elle. Et donc, le quatrième mois de l'année, c'est en réalité une correspondance à la Malchut. Autrement dit, à quelque chose qui doit révéler quelque chose. C'est-à-dire que si Dieu fait une tentative un jour de descendre, entre guillemets, donc de se dévoiler dans notre monde, il va utiliser ce quatrième mois. Et c'est exactement ce que nous avons vu. Le quatrième mois, étant donné donc le mois de Tammuz, rappelez-vous ce qui s'est passé le mois de Tammuz, c'est le jour, c'est le mois où l'Éternel a décidé, entre guillemets, de nous dévoiler les tables. C'est-à-dire que c'est la première fois où quelque chose de concret est descendu sur terre. Or, nous n'avions pas à cette époque-là la capacité de réceptionner. Donc, notre cli n'était pas assez fort, notre malchut n'était pas assez bonne. Et donc, dans le mot malchut, il y a le terme hébraïque lehachil, c'est-à-dire contenir. Étant donné que nos contenants n'étaient pas suffisamment forts, eh bien, ça a brisé en fait. Les tables se sont brisées avec le contact de ce monde. C'est comme si donc la parole divine, en descendant dans ce monde, c'est brisé. Alors cette brisure, il ne faut pas la voir seulement comme une tentative que Dieu a échouée. Ce n'est pas le cas. Dieu n'échoue pas. C'est une tentative nécessaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la première fois que vous recevez quelque chose dans votre vie qui va vous faire monter de niveau, vous allez tomber. C'est comme ça que ça marche. Donc quand on va apprendre à marcher pour un enfant, il va tomber. Et c'est la chute qui va lui permettre de grandir. En Adam Omed al Divrei Torah, Elaïken Nechal Bahem. Un homme ne peut pas tenir même une connaissance en Torah qui ne s'est pas cassé la figure sur le même sujet. Donc ne prenez pas les défaites, entre guillemets, de votre vie comme des défaites. Ce sont en réalité des moyens pour évoluer, pour grandir. Et c'est très important de comprendre que cela fait partie du processus. Sheva Lipol Sadik Vekam. Il faut tomber 7 fois dans ce monde. 7. Bien entendu, pas en tant que chiffre, mais en tant que nature. La nature étant basée sur le chiffre 7, on est obligé de tomber dans ce monde. C'est-à-dire que la chute fait partie de ce monde. D'accord ? On ne peut pas grandir sans tomber. C'est comme ça. La lune ne peut pas se reconstruire sans devenir, en fait, manquante. Et le peuple d'Israël ne peut pas grandir s'il ne revient pas à chaque fois à un plan. Pour changer d'un plan à un autre plan en mathématiques, il faut passer obligatoirement par zéro. Mais c'est la même chose. À chaque fois que vous changez de plan dans votre vie, même au niveau intellectuel, vous êtes obligé de passer par un plan, par un degré zéro qui annule la construction précédente et qui va vous permettre d'évoluer et de grandir. Si vous ne passez pas par le zéro, vous n'êtes pas en réalité dans un mouvement d'évolution, vous êtes dans la continuité de ce qu'il y avait hier. C'est comme quand on monte un escalier, vous êtes obligé à un moment donné de lâcher l'escalier d'avant pour monter. Si vous avez peur de lâcher ce que vous aviez hier ou avant-hier, jamais vous avancerez dans votre vie. Et chacun dans votre niveau de vie, vous pouvez le constater. Si tu continues à faire ce que tu avais l'habitude de faire hier parce que tu t'es rassuré dans un endroit qui est confortable, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas devenir quelqu'un de grand. Et donc, il y a obligatoirement des passages à zéro. Et le seul problème, c'est que pendant ces passages à zéro, si tu ne connais pas le système, tu risques de tomber dans une angoisse. Et il ne faut pas, parce que c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier. Donc, l'un de ces passages à zéro, c'est le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, le début du mot Tammuz, même si les noms des mois sont montés de Babylonie, ils ont un sens, ces noms-là. Donc dans le mot Tammuz, il y a le mot Tam, qui veut dire c'est terminé, Nigmar. Tam quoi? Ouz. Vav, Zayn. Or, Vav et Zayn, ce sont en réalité le 6 et le 7. Le 6 représente ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire la Tiferet, c'est le 6, c'est la lettre Vav, et le 7, la septième porte, c'est la Malchut. Tout à l'heure, je vous l'ai défini comme étant la quatrième, elle est quatrième par rapport à un programme de 4, du tétragramme, du nom d'Hachem, mais au niveau des sphères, c'est la septième. Donc ça c'est 6, et ça c'est 7. C'est-à-dire que tout le travail dans ce mois de Tammuz, on va essayer de comprendre, c'est travailler sur ce qu'on appelle le pectoral et le dévoilement, c'est-à-dire la diffusion des choses pour ne pas que le don de la Torah se casse la figure une deuxième fois. Maintenant qu'il s'est cassé, tu dois prendre les morceaux, tu dois les rassembler et retrouver le puzzle. C'est pour ça que Dieu, en sachant que le peuple allait fauter dans la fosse du veau d'or, a quand même donné les tables. C'est pas que Moïse descend et qu'il voit qu'il y a un veau d'or. Non, Dieu le sait. Dieu sait tout. Alors pourquoi il donne à Moïse les tables en sachant qu'il va les casser? Réponse, ça fait partie du programme. Première tentative doit passer par une brisure. Et cette brisure fait partie de l'évolution. C'est-à-dire dans votre petite boîte, qui est votre corps, votre esprit, votre identité humaine, vous devez avoir et des tables brisées, et des tables en pierre. Vous comprenez? Comme dans le tabernacle. Il y avait dans le tabernacle les brisures et les en pierre. pour nous dire une leçon extraordinaire, c'est que la brisure fait partie de notre construction. C'est comme ça qu'on se construit. Et c'est pour ça que pour accoucher, il faut en réalité s'installer, mentalement parlant, sur une brisure. En hébreu, c'est extraordinaire, le lit sur lequel la femme qui accouche est installée s'appelle Mashber, c'est-à-dire la crise. C'est incroyable. C'est-à-dire en hébreu, tu dis Haisha Yoshevet al Hamashber, la femme est assise sur une crise, et c'est pour ça qu'elle donne naissance à un nouveau-né. C'est-à-dire, sans être dans une position de crise, tu ne peux pas accoucher, tu ne peux pas engendrer. Alors que ceux qui ont peur de cette crise en question, eh bien, ils seront toujours parvés ou parvés. C'est la même chose. C'est une évolution où ils se font plaisir, ils sont toujours dans un domaine rassurant, mais en réalité, il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de renouveau dans le sens dont on est. Et donc, ce mois de Tammuz vient comme Bechina Dalet, comme la porte. Or, le mot Dalet en hébreu s'écrit aussi comme ça. Vous avez le guillemet et le Dalet. Regardez, le Dalet s'écrit comme Dele. C'est la même chose. On ne dit pas Dalet 2 avec un D à la fin comme j'entends souvent. C'est Dalet, c'est-à-dire Dalet, une porte. C'est-à-dire que cette malchoute, vous avez compris que ça correspond à cette partie-là, vous voyez Dalet ici, donc la malchoute correspond à une porte. Donc à chaque fois que vous allez vous trouver dans une porte dans votre vie, vous allez rencontrer des gens. Parce que quand on est dans un passage, on ne peut pas passer à deux. Une porte ne supporte pas deux personnes. C'est où tu passes, ou tu me laisses passer. Ou sinon, on se rencontre. Donc, quand vous faites partie d'un peuple qui est en train de revenir sur sa terre, et Jérusalem et la terre d'Israël, c'est Malchut, c'est la royauté, ici, vous allez rencontrer tout le monde. Et c'est le moment des rencontres, des retrouvailles, pas seulement avec des gens que vous n'avez pas vus depuis 20 ans, mais avec des réincarnations qui sont venues sous d'autres formes aujourd'hui, où nous sommes en réalité toutes les générations réunies en une. Et donc les gens qui sont assis ici, ce sont les mêmes gens qui sont sortis d'Égypte. Comprenez bien. Seulement, au fur et à mesure de ce que la Kabbalah enseigne comme étant des Gilgulei Neshamot, on est parti, on est revenu, on est parti, on est revenu 200, 300 fois. Et aujourd'hui, nous sommes tous réunis. Et étant donné que Madame était ce qu'elle est aujourd'hui, mais ce qu'elle était hier, et avant elle s'appelait Gisèle, et avant elle s'appelait Sarah, et avant elle s'appelait... Et donc toutes ces Neshamot reviennent en une seule, en la dernière, qui porte en réalité toute cette mémoire, et tout le monde se rencontre dans cette dernière porte qui s'appelle la Bechina Dalet. Et tout ceci correspond au niveau temporel au mois de Tammuz. Comprenez bien. Donc nous sommes en train de rentrer dans une porte secrète qui prépare le dévoilement du grand papa. Car après Tammuz vient Av, traduction papa. C'est-à-dire pour dévoiler papa, qui n'est pas seulement papa, mais qui est la sagesse. Papa égale sagesse. Abba Zechokma, eh bien, pour dévoiler cette sagesse, il faut d'abord être disponible et ouvert. C'est pour ça que Dele, c'est une porte qui doit rester ouverte pour pouvoir préparer l'accès à ce qu'on appelle la Chokma supérieure, la sagesse supérieure qui est en train d'arriver. Alors, il y a une information que la Gemara nous donne, incroyable, dans le traité de Shabbat, à la page 104, nous disent les Chachamim, Gimel Dalet. Qu'est-ce que c'est Gimel Dalet? Vous l'avez écrit ici, Gimel Dalet. Ouais. Vous voyez? Gimel Dalet. C'est en réalité Gomel Dalim. Gimel vient du mot Gmila, don, partager, ligmol, faire sortir, Gomel Shkedim, faire engendrer, Gmilut Chassadim, donner du chesed, et dalet, c'est justement la corps. Donc il y a ici un côté masculin qui est gomel, qui va donner, et un côté féminin qui va recevoir. Donc le gimel dalet, ça va être en réalité 7. Gimel égale 3, dalet égale 4, 3 plus 4, le 3 donne au 4, et en réalité il forme un 7, c'est-à-dire notre monde de la nature. Donc le Aleph initial, la première lettre du nom d'Hachem, celle qui va se dévoiler à nous dans le don de la Torah de Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, ça commence par un Aleph, pas comme la Torah qui commence par un Bet. La Torah commence par un Bet parce qu'il s'agit de création. Donc Dieu a besoin de créer une maison. Donc Bet égale Baï, c'est les mêmes lettres. Donc Dieu crée une maison pour se dévoiler, pour venir s'y installer. Donc une fois que le Aleph donne au Bet, le Bet pour dévoiler le Aleph, il lui faut en réalité un vêtement. Alors qu'est-ce qu'il fait le Bet? Il va se réunir avec le Gimel et le Dalet, et ça va nous donner le mot Beged, un vêtement, Begadim, c'est-à-dire le vêtement du Aleph. Et tout ce monde en réalité n'est qu'un vêtement. Nous sommes dans un monde de vêtements. Nous sommes tous déguisés. Et selon comment tu es déguisé, entre guillemets, je peux savoir ce à quoi tu fais référence et qui tu es à l'intérieur. Alors chez les autres, l'habit ne fait pas le moine, mais chez nous, il fait le rabbin. Ça veut dire qu'il y a un secret dans les vêtements. D'ailleurs, ça trahit la personne, puisque trahison se dit bogey. Donc le mot « beged » qui est le vêtement peut trahir en réalité, il trahit celui qui se cache à l'intérieur. Et je peux savoir si tu as une personnalité, si tu as une identité retrouvée, ou si tu es quelconque. Et donc dans tout vêtement, il y a en réalité langage. Tout est langage. Et ça c'est le secret de notre monde, et le moi de Tammuz est à l'intérieur de ce degré-là. Je ne vais pas trop approfondir parce qu'il y a des choses énormes, mais je vais essayer de raccourcir. Le nom d'Hachem, vous le voyez ici, le Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, eh bien, il correspond à des mondes. C'est-à-dire le Yud, qui est en réalité un point, correspond au monde le plus élevé qu'on appelle Atzilut. Atzilut, c'est pas comme en français le monde de l'émanation, les ha-astil, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus profond. Astilut veut dire qu'on est chez lui, qu'on est dans le sel, à l'ombre du Aleph. C'est-à-dire on est tellement chez lui que tout est un. Il n'y a pas de différence entre mon vêtement extérieur et le Yoel intérieur que je suis. Alors que dans notre monde à nous, on ment. À l'extérieur, tu te déguises, mais ce n'est pas exactement ce que tu es dedans. Eh bien, il y a un monde où tu ne peux pas tricher. On appelle ça le monde de Hatsilou. Tu es chez lui, Etzlo. Etzlo en Sheker. Chez lui, il n'y a pas de mensonge. Quand tu sors de ce monde, sortir en hébreu se dit barra, comme en arabe, sortir. Bar veut dire extérieur. Un chat qui vit dehors, on appelle Khatoul bar. Donc le mot « beri'a », c'est en réalité sortir de chez lui. Donc quand tu sors de chez lui, regardez ici, ça commence par un « aleph ». Immédiatement, tu es dans le « bet ». Car sortir du « aleph », c'est tout simplement tomber dans le monde du pluriel. « Bet » égale 2, donc le début du pluriel. Donc des milliards, peu importe, c'est déjà 2. Donc automatiquement, le monde, c'est « bria ». Donc c'est le terme utilisé dans le langage de Bereshit. Bereshit, bara, bria. Car la création, c'est justement sortir de un pour une multitude de détails. Des milliards de détails. Voilà notre monde. Mais il ne faut pas se perdre dans ces détails. Donc le mot bria doit retrouver tout le temps le aleph initial. Et c'est pas facile parce qu'il y a une descente qui continue. On arrive au troisième degré, donc au Vav du nom d'Hachem. Tout à l'heure j'ai sauté une lettre, c'est le He. Donc la Chokhma, regardez, c'est un point. Le Yud est un point, car tu peux tout faire avec la sagesse initiale. La Bina, c'est déjà directionnel. C'est un 3D. Même si vous le voyez ici en 2D, nous sommes déjà dans un monde en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une hauteur, une largeur et une profondeur. L'axe des X, des Y et le point dans l'espace. C'est-à-dire que je viens de créer ici un volume. Donc du point initial qui est l'infini, je commence à créer un volume. Et à l'intérieur de ce volume, je retrouve le troisième monde, c'est-à-dire une direction. Car le mot « vav », c'est directionnel. Et il me donne en réalité une direction de vie. C'est pour ça que je peux commencer à façonner. Yestira, Yester Hatov, Yester Hara. Le Yester Hatov, le Yester Hara ne se trouve que à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez des notions qui sont plus élevées, qui sont dans Beria, mais sont en même temps potentielles. À toi de leur donner un sens. Donc, le Yester Hatov, c'est tout simplement prendre le potentiel qui était avant et lui donner une direction de bien. Mais si tu lui donnes au même degré une direction de mal, ça va devenir Yeter Hara. C'est pas ce que vous pensez des anges, le l'ange du bien et l'ange du mal. Ça c'est de la chrétienté, c'est pas de chez nous ça. C'est-à-dire que tu as un potentiel, je vais vous le donner au chiffre mathématique, un 10. C'est à toi pour faire avec le 10 du Yeter Hatov, une Yetira Tova, une créativité bonne, eh bien tu donnes à ce 10 le signe plus. Donc ça veut dire plus 10. Mais si tu donnes au 10, c'est la même potentialité, la même force, moins, eh bien, tu vas utiliser le 10 dans le moins. Ça va être Yeter Hara, c'est-à-dire une direction vers le mal du même potentiel initial. Donc vous avez une valeur absolue, et c'est à vous de donner un chiffre plus et un chiffre moins. Donc Dieu vous a donné des forces dans votre vie. Et c'est à vous de savoir vers quelle direction vous les portez. C'est pas un ange qui vient de vous dire « fais comme ça et fais comme ça, c'est des bêtises ça ». C'est vous qui choisissez, vous façonnez. Alors les gens qui veulent enlever le « yeser », que se passe-t-il chez eux? Ils n'ont plus aucune créativité dans leur vie. Donc il ne s'agit pas de tuer le monde de « yesira ». Au contraire, il faut juste lui donner une direction. C'est pour ça que c'est le vav. Donne-lui une direction normale qui va vers le dévoilement, vers le dernier dé, qui est l'action Akia. C'est tout. Mais si tu tues ton Yeter, et c'est ce que les sages nous racontent dans la Gemara, un jour les sages ont voulu tuer le Yeter Hara, que s'est-il passé ce jour-là? Aucune poule n'a pondu d'œuf. Vous comprenez le message. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Yeter Hara dans ce monde, il n'y a pas non plus d'évolution de l'espèce parce qu'on n'est plus attiré les uns par les autres. Donc en réalité, les sages viennent nous donner une leçon à travers leur exemple pour ne pas tuer le Yeter Hara, mais pour lui donner un bon sens, une Yetziratiyut Tova. C'est donc un homme qui garde sa Yetziratiyut va être un créateur, va être un façonneur. Va être quelqu'un qui a une qualité de développer des choses et de leur donner des formes. Yotri, on appelle ça, pas comme en français des créateurs, mais des façonneurs. Car création, c'est ex nihilo, c'est de rien. Nous, on ne peut pas créer de rien. On crée de quelque chose. Je prends un tissu et je fais un vêtement. Mais je ne peux pas créer le tissu. D'accord? Je vais prendre des matières qui existent déjà. Dieu, c'est pas pareil. De rien, il y a. Ex nihilo. Ça, ce n'est pas humain. Alors, vous avez ici en réalité les quatre mondes, le yud, le he, le vav et le he, qui correspond à ces brinos qu'on a vu tout à l'heure. Brina alef, rappelez-vous, chokma, bina, tiferet et malchut. Donc, malchut correspond au monde de l'action, asiya. Donc, on nous demande de faire dans le mois qui est quatre. Au rythme des mois de l'année. Nissan, Iyar, Sivan, Tamouz. Donc vendredi soir, vous commencez à faire dans votre vie. Vous n'êtes plus dans « je pense que je vais essayer de... » Il me semble que j'ai étudié, j'ai lu, tout ça. c'est du virtuel. Le judaïsme te demande de dévoiler les choses sur terre. Je veux voir de quoi tu es capable. Et même si tu te casses la figure, c'est pas grave, on a déjà eu une histoire le 17 Tammuz. Sache que ça fait partie de ta construction, mais descends. Fais descendre les choses dans ce monde. Agis. Fais quelque chose. N'aie pas peur de te casser la figure. Même si tu te casses la figure, ça fait partie du processus. Mais tu as ajouté de la lumière dans ce monde. Tu n'as pas eu peur. Si tu as peur, tu n'as rien, tu ne fais rien. Mais tu ne vis pas non plus. Ce n'est pas ta vie. Alors, tout ceci pour vous dire que les sages, tout ce que je viens de vous raconter, ils nous disent quelque chose, un secret incroyable. Lorsque le serpent est venu faire sauter le premier homme, il chevauchait un chameau. Je vous traduis en français, ça ne veut rien dire en français, mais je vous le dis comme le Harizal nous le dit dans la Kabbalah. Nachash ba rochev al gamal. Le serpent est venu chevauchant un chameau. Alors, en français, c'est du bidon, c'est du charabia, c'est un chameau. Et ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les sages viennent nous donner ici un code. Le mot gamal, guimel, mem, lamet, en valeur numérique, c'est 73. Comme par hasard, c'est la même valeur numérique que chokhma. C'est-à-dire que le serpent, et c'est ça le message de la Kabbalah, lorsque le serpent vient pour séduire Adam et Ève, il se déguise avec une sagesse. Et c'est pour ça que la Torah elle-même dit « Ve'anachash haya arum ». Arum, c'est « chacham armumi » on dit en hébreu. Ça veut dire que le serpent ne vient pas pour te séduire avec quelque chose qui ne va pas t'attirer. Il va utiliser ta sagesse humaine en te disant « Mais fais-le. Pourquoi tu t'empêches? Qui t'empêche de faire ?» Ça veut dire que le serpent est très séducteur. Et quel est son moyen de séduction? Ton rationnel, ta sagesse humaine, ton intellect. Mais là, tu tombes dans le piège. Car si tu fais passer ton intellect humain, sachant qu'il est illimité, et tu oublies en réalité qu'il y a un intellect supérieur au tien, qui est l'intellect divin, et qui t'a donné en réalité la Torah avec tous ses critères, tous les vrais critères des choses, et bien tu commences à prendre des décisions dans la vie selon ton propre système de réflexion, qui s'appelle donc le gamal. Et comme c'est le nachash qui chevauche le gamal, quand il vient de séduire, le nachash c'est ton côté cérébral, qui va chevaucher ton propre système. Et qu'est-ce qu'il va te dire, le nachash? Qu'est-ce qu'il a dit au premier homme pour pouvoir le faire sauter? Ve'yitem ke'elohim yod'e tovara. Vous allez devenir comme Elohim. Sous-entendu, quoi, Adam, tu sais pas que Dieu, avant d'être ce qu'il est, eh bien, il était comme toi. Et moi, je lui ai donné à manger du même fruit que je suis en train de te donner, il est devenu Elohim. Donc je te propose la même chose. Autrement dit, l'homme va prendre la place de Dieu. On va transformer Dieu en homme, comme dans la chrétienté. C'est-à-dire que le Dieu devient humain. Et donc tu ne pries plus Dieu, tu pries l'homme qui représente. C'est incroyable. C'est pas juste parce qu'il est suspendu et qu'il est le Fils, non. Il a pris la place de Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, les critères maintenant, c'est humain, c'est pas divin. Un exemple, si j'ai envie de castrer un chat, une chatte, pour ne pas qu'elle ait des descendants, ben moi je me dis, ça va me faire une panique dans le quartier, moi tous les chats. Donc il va falloir que j'aille chez le vétérinaire pour lui enlever tous les éléments qui lui permettront d'apporter la vie. Humainement, c'est logique. Divinement, c'est la plus grande des interdictions. C'est-à-dire que tu viens de faire une avéra très grave. Parce qu'en réalité, tu prends ton côté humain et tu décides en fait de l'avenir du monde à ta manière égoïste à toi. Tu as coupé tout le degré de ce monde à ton petit plaisir. Je veux avoir une chatte à la maison sans qu'elle me fasse plein de petits-enfants. Et la même chose dans tous les domaines. Traduction de ce que je suis en train de vous dire, c'est lorsque l'homme prend la place de Dieu, c'est de la Avodah Zara. Est-ce que vous pouvez prendre la place de Dieu? Bien sûr, 10 milliards de fois par jour. À chaque fois que tu prends une décision, et que ce n'est pas la décision que Dieu veut, mais que toi tu décides que, il ne me semble pas que, je ne pense pas que Dieu veuille, tout ça c'est l'intellect humain, très limité, donc bafouant toute la Torah qui est une prophétie. Donc tu ne crois pas en réalité en la Torah qui vient du ciel, de l'infini, de l'absolu, et tu préfères ta propre Torah qui en réalité au niveau de ton cerveau étriqué. Et ça devient de la Avodah Zara. Donc qui tu sers? Tu ne sers plus Dieu, tu sers toi-même. Chacun par son prénom. Deuxième degré, pas en premier degré. Premier degré, tu dois d'abord prendre et manger et consommer la réflexion divine, ce qu'on appelle dans la Torah l'arbre de la vie. Et en deuxième lieu, tu peux manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand tu l'inverses et que tu commences par manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire c'est toi Dieu, tu n'as pas mangé d'abord l'arbre de la vie, car je vous rappelle que dans le récit de Bereshit, on avait l'autorisation et le devoir de manger de l'arbre de la vie. Mikol et Hagan Achol Tochel. Tu mangeras de tous les arbres, y compris de celui de l'arbre de la vie. Et y compris celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même si après l'interdiction vient. Ou mais Sada Tovera Lotochal Mimeno. Cet arbre de bien et de mal, tu ne mangeras pas, mais ça, d'une manière absolue. Il y a à côté la raison. Qui Beyom, qui, parce que Beyom Acholcha Mineno, le jour où tu mangeras, Motamu, tu mourras. Autrement dit, si je trouve une combine pour manger sans mourir, je dois y manger. Comment je peux trouver une combine pour ne pas mourir? Eh bien, tout simplement, d'avoir consommé avant l'arbre de la vie. Mais maintenant que tu as consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'as plus le droit de consommer l'arbre de la vie. Et c'est pour ça que Dieu vite sort l'homme et la femme du jardin d'Éden. Pourquoi il est interdit maintenant de consommer l'arbre de la vie après avoir commencé par l'arbre de la connaissance? Parce que si tu consommes l'arbre de la vie avec la trace de ce que tu viens de faire, tu resteras éternellement dans la faute. Donc on te jette du jardin et tu vas faire 6000 ans à l'extérieur du jardin pour revenir vers Bezrat Hashem quand tu feras ton aliyah à la fin du temps. Et là vous êtes revenu au jardin. Et maintenant vous avez pas seulement l'autorisation, mais le devoir de remanger de l'arbre de la vie, et ça c'est la Torah de la Kabbalah. Vous avez une bonne nouvelle, Bezrat Hashem? Israël va commencer, Bezrat Hashem, un shiur d'initiation à la Kabbalah. Israël Kalavitch était là. Bezrat Hashem, dans les semaines qui viennent, il va organiser ça avec vous. Tout à l'heure, je lui laisserai la parole pour commencer à installer à Ranana une étude qui n'est pas une fois tous les, mais une étude suivie, sérieuse, sur texte, et en forum avec une table, comme réellement doit se faire un cours. Là, je fais un petit peu des conférences, mais c'est un petit peu waouh. C'est-à-dire, le véritable étude, c'est assis autour d'une table, avec des questions, des réponses sur un texte bien clair, que les choses soient introduites à l'intérieur de notre être. C'est pas de l'information que je vous donne ici. C'est un changement de vie. C'est une proposition de changement de vie. Et donc, je résume tout ce que je viens de vous dire. Quand on fait passer les valeurs de l'absolu avant les valeurs de mon propre cerveau limité, là, je reviens à la vie. Là, je commence à vivre. Et c'est ça, en réalité, tout le problème de ce que nous avons dans notre vie, dans notre monde. Le serpent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, devait en réalité être mon serviteur. Le serpent m'aide. Si j'arrive à trouver le véritable serpent qui chevauche, au lieu de chevaucher son propre système intellectuel, il chevauche sur les valeurs de Dieu, bien le serpent lui-même devient Mashiach. Serpent, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Le serpent et le Mashiach, c'est la même valeur. Encore, je vous ai dit tout à l'heure, valeur absolue. Valeur absolue du serpent, 358. Valeur absolue du Mashiach, 358. Le problème, c'est que serpent égale moins 358, et le Mashiach, c'est plus 358. Vous comprenez? On va pas tuer le serpent, ça sert à rien de tuer le serpent. Si tu tues le serpent, tu tues le Mashiach. Il faut tout simplement prendre la force du serpent et l'utiliser dans le sens messianique. Si j'ai une tendance dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai utilisée dans le mal. Si j'ai détruit cette tendance, je ne pourrais plus avoir la même force pour la tirer vers le bien, parce que je n'ai plus, je l'ai tué. David HaMelech, il avait une certaine tendance dans sa vie. Il était attiré par certaines choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette attirance, il lui a donné une nouvelle direction, c'est tout. Et il s'est dit, tant que je n'ai pas cette même attirance vers la lumière, comme j'avais cette attirance vers, peu importe, je ne suis pas guéri. Vous avez compris? Donc je prends toute mon intensité, qui hier allait vers le moi, et je l'utilise vers le bien. Ça c'est un homme, ça c'est une femme. Ça, c'est la force. Mais si vous brisez en réalité ce que vous étiez avant, ça ne sert à rien. Le rabbi de Kotz, il disait que si tu as un Yesser Hara et tu le casses, tu en auras deux. Ça ne sert à rien. Il faut tout simplement lui donner une direction, la bonne direction dans sa vie. Tout ceci pour qu'en réalité, nous finissions par comprendre et admettre et comprendre que ce que moi, dans mon petit raisonnement, alors je passe tous les degrés de notre vie. Les filines, le Shabbat, la cacheroute. Je peux arriver à me dire, ouais, bon, ça c'est... Mon Dieu intérieur me dit que c'est pas très important. Ça, je préfère me servir à moi. Avec tout le respect que j'ai pour le grand. Il est trop loin, il reste là-bas un petit peu dans le ciel, qu'ils ne viennent pas me déranger. Moi, dans ma structure intellectuelle, j'ai compris que 1, 2, 3, 4, 5, et tu fais une Torah qui a en réalité à sa couleur. C'est pas la Torah de Dieu. C'est ta Torah à toi qui fait créer une nouvelle Torah, une nouvelle religion. Je fais ce que je veux, comme je veux. Donc ça veut dire que tu ne crois pas que ce que l'infini, que l'absolu nous a donné au Mont Sinaï est vrai. Car si c'est vrai, eh bien, prends tout. C'est des valeurs de vie qu'il est en train de te donner. Je ne peux pas dire, oui, il est là, c'est l'absolu, je suis sûr que c'est lui, mais ça m'embête un peu. Ça marche pas. Tu ne vis pas en réalité liée à ton identité, celle que tu cries toute la journée. Tu es en réalité en décalage total par rapport à ton être initial. Donc tu te mens. Ça, c'est pas de la Torah. Et ça, c'est un problème qui revient justement dans ce mois de Tammuz. Quand la Torah vient de Dieu, les valeurs descendent du ciel. On est d'accord? Qu'est-ce que c'est que les tables qui descendent? Traduisez ça en pensée, en idéal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'infini absolu, béni soit-il, me donne ses valeurs, ses critères, selon lesquels il faut que je gère. Le monde, donc il me donne ces tables. Au moment où il me donne ces tables, moi en bas, qu'est-ce que je suis en train de faire? Un veau d'or. Qu'est-ce que c'est que faire un veau d'or? C'est tout simplement dire à Dieu, reste en haut s'il te plaît, it's not today que le ciel nous tombera sur la tête. Donc je vais mettre des piliers comme les gens qui ont construit la tour pour que le ciel... C'est comme ça qu'ils pensaient avant. Car si le ciel me tombe sur la tête, je veux devenir céleste. J'ai pas envie, moi. Laisse-moi tranquille, j'ai envie de manger comme j'ai envie de manger. J'ai envie de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Quand j'ai envie de faire, personne ne me dira quoi faire. Donc je vis selon la Torah de Yoël. Yoël est devenu Dieu. Grâce au shalom. Ça, c'est ce qui a causé ce qu'on appelle dans la Kabbalah Shvirat HaKelim, la brisure des vases. La brisure des vases, nous disent les Kabbalistes, chaque élément a dit Ana Emloch, c'est moi le roi. C'est-à-dire, avec nos mots à nous, c'est moi qui décide. C'est pas lui qui décidera pour moi. Je fais ce que je veux. Donc, lorsque Dieu donne ses valeurs, et que moi, en même temps qu'il me donne ses valeurs, je suis en train de fabriquer ici-bas un Bodo. Vous voyez bien la catastrophe. Dieu donne des critères et moi je vis selon d'autres critères. Dieu me donne une direction de vie et moi je suis en train de faire des bulles. Car le mot Egel en hébreu, c'est des bulles. À Gaulle. Je fais des cercles. Je tourne en rond. Je tourne en rond, je me mords la queue parce que mon cerveau il est tellement limité que je ne peux pas réfléchir autrement que ce que je suis capable de réfléchir. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'étudier tout seul. Parce qu'il n'y a personne pour te contredire. Tu ne peux pas te placer d'un côté du texte et partir de l'autre côté comme dans un jeu d'échecs. Tu te mens toi-même, tu sais bien quel pion tu es en train de bouger, donc celui qui va venir de l'autre côté, qui en l'occurrence toi-même, c'est un jeu vendu d'avance. Si tu étudies, si tu lis toute la journée, tu es enfermé dans ton propre système de réflexion, donc il n'y a personne pour te contrarier. Il n'y a personne pour que te dire non, t'as pas compris ça comme ça. Et donc tu es piégé par ton système cérébral logique. Tu ne peux pas avoir le divin. Le divin, ça vient de l'ensemble, donc j'ai besoin de discuter, parce qu'il va me dire exactement le contraire, et entre les deux, il va y avoir quelque chose qui est ni chez lui, ni chez moi. Ça, c'est la véritable étude. Moralité, nous sommes tous piégés dans des systèmes humains. Alors on lit. Mais quand vous lisez quoi en réalité? Le Dieu, je ne sais pas comment il s'appelle, ça dépend, prenez tous les écrivains que vous connaissez, c'est tous des mini-dieux. J'ai lu machin. C'est ta réflexion, donc j'ai maintenant 200 dieux. Mais je ne sais pas du tout ce qui est la volonté de l'absolu infini. Ça, je ne sais pas. Et tu sais pourquoi tu ne sais pas? Parce que ça, c'est écrit seulement dans la Torah. Ça, c'est la volonté de l'infini. Donc tu vas te perdre dans des mini-dieux. Comme dans l'Antiquité, chacun avait un dieu, le dieu de la mer, le dieu du soleil, le dieu de la terre, le dieu du sable, le dieu de l'air. C'est la même chose. Vous vous moquez, vous croyez qu'ils étaient primitifs, mais c'est la même chose. Tu as le dieu du philosophe un tel, tu as le dieu de ce mathématicien, tu as le dieu... C'est la même chose. Ce sont tous des degrés, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les étudier. Mais tu dois les étudier en deuxième position. Une fois que tu as reçu l'arbre de la vie, tu peux rentrer maintenant dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as le devoir de le faire avec ta réflexion humaine. Mais pas avant. Parce que si tu rentres avant à ce degré-là, tu es mort. Piégé par ton propre système, tu ne peux plus réfléchir autrement que comme toi tu as l'habitude de réfléchir. Quand tu tournes en rond, ça s'appelle Chet Ha'egel, la faute du vaudan.
Et comment je peux étudier la volonté de Dieu si je n'étudie pas dans le texte? C'est lui qui nous donne la référence de ce que Dieu veut.
Mais le texte, tu peux le comprendre à ta manière. Et lui, il va le comprendre différemment.
C'est pour ça qu'il y a plusieurs commentaires.
C'est pour ça que je dois étudier avec tous ceux qui travaillent sur ce domaine-là. Pas sur une réflexion humaine, moi je pense que. La Torah, c'est pas moi je pense que. La Torah te dit, voilà moi, l'éternité de ce que je vous donne. Une fois que tu as reçu cette éternité, tu peux dire, moi je pense sur ce sujet en question. 1, 2, 3, 4, 5. Et parmi 200 personnes, on va sortir une façon de vivre, ce qu'on appelle la halakha. Comment marcher? Halakha. C'est tout. Ça veut dire que l'homme devient un petit dieu, et ça c'est l'interdiction la plus grande, la plus grave. Je vais avancer, j'ai presque la fin. Dans les mondes que je vous ai montrés, Bria et Yetzira, prenez ces deux. Lequel est plus grand que l'autre? Bria, il est plus élevé. On va parler en notion de lumière. D'accord? Dans Bria, il y a plus de lumière que dans Yetzira. Alors je vous pose la question, comment se fait-il que dans la bracha que vous faites le matin, vous dites l'inverse? Baruch ata Hashem Elohenu Melech Haolam Yotzer O Bore Choshech. Vous avez compris? J'utilise le noir, j'associe le noir au monde supérieur. Alors qu'au monde inférieur, j'associe la lumière. Qui pose cette question? Le Arizal. Bien entendu. Quelle est la réponse? La réponse est toute simple. C'est que dans ton petit cerveau à toi, ce qui est plus proche de ta réflexion, tu as l'impression que c'est la lumière. C'est tout. Et quand le monde, il te dépasse un petit peu, tu te dis que c'est le noir, donc ça ne me concerne pas. Terrible. Et je vais vous donner quelques exemples. Ça se répercute partout. Vous êtes plus proche dans la simcha de Yom Tov que de Shabbat. Alors que Shabbat, c'est infiniment plus grand que Yom Tov. Seulement, comme Shabbat est tellement loin de nous, on a l'impression que c'est le noir total. Donc, laisse-moi, laisse-moi tranquillement le Shabbat, je fais ce que je veux. Mais Yom Tov, étant donné que c'est un petit peu à l'échelle humaine, tu te dis, ah, ça c'est la lumière, ça c'est le kiff. Un autre exemple. Le talit. Dans le talit, il y a le corps du talit. Le drap. Il y a les fils, les tzitziotes. Donc ce qu'on appelle le gouf et les tzitziotes. D'après vous, quelle est la partie la plus dans la lumière, dans la sainteté? Les tzitziotes. Vous prenez les tzitziotes, vous les embrassez. Quelqu'un a déjà embrassé le corps du talit? Non, vous embrassez juste ses cheveux. Nous disent les chachamim, tu n'as rien compris. Tu sais pourquoi tu t'attaches aux cheveux? Parce que tu as l'impression que c'est palpable, qu'il y a des couleurs, c'est magnifique, c'est machin, tu touches. C'est ton monde à toi! Mais t'as rien compris, la lumière du corps du talit est tellement grande qu'il n'y a même pas de kdoucha parce que pour toi c'est du noir. Et la petite lumière qui est à ton petit niveau à toi, tu considères ça comme la lumière. Ah, magnifique. T'as rien compris. Troisième exemple. Le Beit HaMikdash à Jérusalem, il est plus élevé que le Mishkan dans le désert ou inférieur? Hein? Plus élevé à Jérusalem, j'espère. Faites attention, parce que c'est comme si vous me disiez que la synagogue de Venise est plus importante que celle de Jadol. Hein. Attention, c'est exactement pareil. Hein. Alors je vous rassure, le Beit HaMikdash à Jérusalem, ça n'a aucune commune mesure avec le tabernacle du désert. Ah bon? Alors comment ça se fait que le tabernacle du désert, il est fabriqué de tenture animale? Oh, c'est beau! De végétaux, des arbres, de minéral, de l'or, de l'argent. C'est précieux tout ça. On avance, on avance, on avance dans le désert avec toute cette magnificence. On rentre à Yerushalayim et le temple devient de la pierre. De la pierre, des cailloux. Et d'ailleurs, vous pleurez, mais sans savoir, Even Ma'asu Habonim, Aïtalerospina, qui est en train de bafouer cette pierre, alors que c'est la lumière, par définition, la plus grande lumière. Et toi, c'est pour toi, petit, l'or, l'argent, les machins, les petits chérubins, les petits machins, oh! C'est la même chose. C'est la même chose. Vous donnez de l'importance à la synagogue du désert, Au lieu de donner l'importance à la force qui se trouve sur la terre. Donc encore une fois, Yosef Or, qui est petit, qui lui donne la valeur lumière, et Boré, qui est élevé, tu l'appelles Rocher. T'as rien compris. Les explorateurs, encore un exemple, ils sont dans le désert, magnifique, la Torah, Moshe Rabbeinu, grand rabbin, la yeshiva s'appelle Har Sinai, les vêtements poussent avec nous, les enfants sont tous dans des écoles juives, vous mangez cachère de folie, Bedin d'Akadosh Baruch Hu directement. C'est magnifique, qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Et Akadosh Baruch Hu, dans cette même yeshiva, il pousse une gueulante. Il dit, ça suffit, vous n'avez rien compris, bande de tarés! Barrez-vous de cette yeshiva, je veux que vous alliez sur la terre d'Israël. Et les gens qui se disent, mais ça va pas, non? C'est quoi ce bon Dieu? Moi j'ai la Torah, j'étudie tous les matins d'Agnara, j'ai une Chavruta, dans mon petit patelin paumé là-bas. La même chose. Tu vois la lumière dans l'exil, alors que sur ta propre terre, tu vois du noir. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est lui les critères, les vrais. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ha'aretz hazot tova me'od. Cette terre, c'est la bonne, c'est là où il y a la lumière. Je sais que toi, avec ton petit cerveau, tu vois la lumière et le plaisir là-bas dehors. C'est tellement faible que tu n'as pas compris. Parce que tu fais ta vie selon tes critères humains. Et pas selon mes critères divins. Vous voulez encore un exemple? Tfilin. Qui met ici deux paires de tfilin? Rachir Abenoutam. Il y en a? Le jour où vous allez les mettre, il y a deux paires de tfilin. Rachid et Rabenoutam. Différence. Rachid, tu fais une bénédiction. Rabenoutam, il n'y a pas de bracha. Tu les poses sans bracha. Donc, pas de doucha, juste tu les mets, d'arma. Les rachamim nous disent, mais t'as rien compris. Les tfilin de Rabenoutam, celles où tu ne fais pas de bracha, elles sont beaucoup plus élevées. C'est pour ça d'ailleurs que tu ne fais pas de bracha, qu'elle est tellement aveugle que tu ne vois rien. Donc tu n'arrives même pas à donner un sens à la chose. Alors que les tfilin de Rachid qui sont par rapport moins forts, c'est élevé aussi. Mais par rapport à Rabbeinu Tam, non? Alors là, tu fais une bracha. Rabotai, je peux jusqu'à demain vous donner des exemples et c'est tout dans la même chose. Yosef, O, ou Boré, Rochet. Vous avez pris l'habitude de prendre les initiatives humaines comme le serpent qui a dit au premier homme, tu seras comme Dieu. Traduction, tu es capable de prendre les décisions comme lui. C'est tout. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ton petit judaïsme, coupe des morceaux, fais ce qui t'arrange, fais pas ce qui t'arrange pas, enlève, prends ici, fais le malin, tu t'es fabriqué un nouveau judaïsme, une religion nouvelle. Tu vas arriver avec cette religion devant le maître du monde, il va te dire alors quelle religion tu as fabriquée. Vous comprenez? Korach, la même chose. L'échelle humaine, la paracha de ce Shabbat. Quel est le sens que Moïse soit à cette place et moi non? Pourquoi? Donc tu ne crois pas en la prophétie divine qui a placé cet homme ici et cet homme ici. Tu remets en question la hiérarchie divine. Si j'exagère et j'extrapole, tu es le nouveau chrétien, le premier chrétien de l'humanité. Tu vas dire, qui t'a placé, toi, peuple d'Israël, à ma place, moi, la chrétienté? C'est moi le vrai juif. Vous comprenez comment on peut tout dévoyer et on peut massacrer notre vie en ayant vécu à côté de notre véritable identité, de notre véritable vie. Et il n'y a pas une plus grande catastrophe que ça. Yotzer O ou Boré Rocher. Moraï Verabotay, toute cette période-là, c'est la même chose. Et je termine par ce avec quoi j'ai commencé. Le mois de Tammuz, dès qu'on vous dit Tammuz et Av dans votre tête, c'est le noir total. Kabab, les machins, oh là là, rien que ça passe. Les kabbalistes nous disent que c'est le mois qui comporte la plus grande lumière. Seulement pour toi, comme tu es incapable de la contenir, cette lumière, c'est devenu pour toi le noir total. La rma totale. Tu n'arrives même plus à t'approcher de la place, tu as peur, tout est dangereux, tout est... C'est la plus grande des lumières, mais toi qui n'es pas capable, tu n'as pas su gérer la lumière divine, donc tu as préféré en réalité une autre Torah, celle des petites joies, des petits machins. Tu t'es fabriqué une Torah à ton échelle. Alors moi je vous demande, et je me demande avant tout, Tamouz, c'est les rachets heureux. Zmane, tshuva, les mashmeshim, ou baïm. Tamouz, c'est le début de la tshuva. Premier degré de la tshuva, grandis. Arrête de descendre la Torah à ton petit niveau du rat des pâquerettes. Tu as fait de Torah une naine. La Torah, c'est l'infini, béni soit-il. Et toi, tu l'as réduit à ton petit cerveau. Logique. Grandis. Tu veux faire tshuva cette année? Fais tshuva sur une seule chose. Sur ta petitesse, sur ta médiocrité. Grandis. Grandissez. Voilà.
Il y aura un cours le 5 juillet à Natalia, à Saint-Gaudrassi, au plus tard, à 20h.
Il va y avoir, Bézat Hachem, une... Israël va vous expliquer.